C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode avec une invitée qui fait couler beaucoup d'encre avec son compte Instagram. Elle s'attache depuis 2020 à remettre les compteurs à zéro, à faire tomber les harceleurs, à dénoncer les gros lourds, les violents et les petits chefaillons en Stan Smith. Bref, à souligner en fluo ce qui déconne dans le petit monde des agences de com. Depuis 2020, elle anime le compte Balance ton agency. Il y est question de sexisme, de racisme, d'homophobie et d'harcèlement dans le monde ultra bright de la publicité. C'est direct, c'est cash, sans filtre et sans aucun doute possible, nécessaire, peut-être même indispensable. Bonjour Julie Camille, ravie de t'accueillir dans le Super Daily.
Bonjour Thibaut, je suis ravie également.
Comment vas-tu ?
Eh ben très très bien. Malgré toute la charge de travail qu'il y a en ce moment, ça va très bien. Si c'est pour un peu assainir ce milieu, forcément ça donne de l'énergie et ça donne envie de se lever le matin et de faire non seulement couler de l'encre, mais bouger ses petits pouces aussi pour sur son téléphone pour dénoncer un petit peu tout ce qui se passe à l'heure actuelle.
Je suis très content qu'on puisse se parler et puis organiser cet épisode de podcast. C'est pas simple de te joindre, Julie Camille. Alors je précise hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est un pseudo, puisque tu t'appelles pas réellement Julie Camille et moi-même je ne connais pas ton identité. Tu vas nous expliquer pour ça et j'imagine qu'il y a une très bonne raison. Tu vas nous expliquer. Avant, j'aimerais bien que tu m'expliques, s'il te plaît, comment le compte Balance ton agency, il est né.
Alors, il est né parce que j'ai fait un burn-out l'année dernière dans une petite agence donc dans laquelle j'étais, une petite agence de publicité. Et je m'en suis remise donc au bout de 6 mois. Et au moment où j'ai pu me relever, j'ai décidé effectivement de créer un compte Instagram mettant un peu en lumière les dysfonctionnements dans les agences, puisque j'en avais quand même parcouru plusieurs. Et j'avais vraiment vécu, en fait, non seulement en tant que témoin, mais aussi en tant que victime, le harcèlement moral et sexuel. Et j'avais envie un petit peu, de façon utopique peut-être, de créer un endroit où on peut échanger là-dessus, mettre en lumière ces dysfonctionnements-là, pour à court terme ou à long terme, assainir ce secteur qu'est la publicité, parce que c'est un magnifique secteur, et malheureusement, en fait, aujourd'hui, il est un petit peu, on va dire, assombri par tout ce qui se passe au quotidien. Je pense que la crise sanitaire aussi a permis cette libération de la parole, puisqu'on est quand même beaucoup plus sur l'humain versus, on va dire, les résultats financiers. Je pense qu'il y a aussi eu un moment parfait pour le faire, c'est-à-dire qu'il y a eu MeToo il y a 2 ans. Il y a une vraie libération de la parole qui existait déjà, évidemment, mais il y a une vraie écoute. Et il fallait profiter, en fait, de ce moment d'écoute-là pour parler et pour mettre en lumière tout ce qui n'allait pas en fait dans ce secteur.
Ouais. Et donc ce compte, hein, Balance ton agency, on va le parcourir ensemble. Hein. Tu vas nous expliquer tout ça. Tu vas nous expliquer aussi de façon approfondie hein, la démarche. Mais tu dis hein, qu'il est né à ton initiative, eh bien d'un constat personnel. Hein. Toi, t'as eu des mésaventures, on va dire. Et puis tu as décidé de monter ce compte. Est-ce que c'est pour ça aujourd'hui que tu es derrière un pseudo, que tu souhaites rester anonyme?
Oui, alors j'ai aussi envie en fait que les gens ne s'identifient pas forcément à moi parce que j'ai envie que tout le monde puisse s'y reconnaître en fait, que ce soit des hommes, des femmes, que ce soit la génération des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires, même ceux qui ont la vingtaine. J'ai vraiment envie qu'on puisse tous s'identifier au compte dans le sens où c'est pas moi qui fais bouger les lignes, c'est tout le monde, c'est tous les gens qui y participent, c'est tous les gens qui m'écrivent. Donc je ne voyais pas l'intérêt en fait de moi me mettre en avant. J'avais plutôt envie en fait, au lieu de perdre du temps à se demander pourquoi moi ou pourquoi une femme de 30 ans. Enfin, j'avais plutôt envie qu'on s'intéresse au fond du problème et qu'on perde pas forcément de temps. Sur la forme ou sur la personne qui est derrière.
Ouais. Et dans ton compte, hein, Balance ton agency, alors pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir ce compte, hein, évidemment, sur Instagram, Balance ton agency, 70 000 abonnés. C'est incroyable et en même temps effroyable, je dirais, puisque ça veut dire qu'il y a quand même 70 000 personnes qui ont besoin de suivre ce compte, peut-être pour comprendre, pour se rassurer, pour aussi lire des témoignages qui leur rappellent tristement des souvenirs perso. Est-ce que c'est pas hallucinant pour toi, partant de tout ça d'un constat personnel, de voir l'ampleur qu'a pris ce compte, hein?
Si, alors, comme tu le dis très bien, c'est vrai que c'est un triste succès parce que c'est assez étonnant, mais en même temps, ça montre aussi qu'il y a un vrai problème, en tout cas dans la pub ou au sens plus large, dans tous les secteurs. Si on est autant nombreux aujourd'hui, effectivement, il faut vraiment traiter ce problème de fond. Et surtout, il faut qu'on s'y mette à plusieurs. Il faut qu'on soit maintenant une seule et même force pour aller de l'avant. Le but, c'est vraiment pas de taper sur les méchants entre guillemets, mais c'est de trouver des solutions ensemble. Donc, effectivement, on est nombreux. C'est pas une bonne nouvelle, mais ça peut en être une si on se sert de cette force, la force du nombre, pour faire avancer les choses.
Ouais. Si vous ne connaissez pas ce compte, évidemment, en l'écoutant, là, vous allez vous connecter, puis vous allez jeter un coup d'œil et vous allez tomber sur, comme moi, sur des verbatims d'une violence impressionnante. Alors, j'en cite quelques-uns très rapidement. Si vous vous habillez comme des putes pour aller en boîte, c'est pas pour vous prendre des mains au cul qu'on vous paye des verres, etc. Tout ça, ce sont des verbatims issus d'agences. En tout cas, c'est comme ça que Balance Ton Agency les présente. Hein. Chaque post Instagram, c'est entendu chez Publicis, entendu chez Havas, entendu chez BETC, entendu chez Pascal Veynaud, chez Spintank, etc. La liste est interminable. Pas moins de 167 publications, sans compter les stories. Bref, des centaines et des centaines de citations issues tout droit des agences, des agences franco-françaises. C'est effarant. Comment ça marche? Alors, juste une question pour toi, Camille. Comment est-ce que ces infos, elles te parviennent? D'où est-ce qu'ils viennent, ces verbatim?
Alors, en fait, il y a des personnes qui viennent m'écrire donc en message privé sur le compte pour soit effectivement livrer un témoignage en rapport avec les stories qui se déroulent donc dans la journée, soit simplement pour effectivement me donner une phrase qui a été entendue dans une agence. Donc en fait, ça peut être plus de quand vraiment il y a beaucoup d'activités sur le compte, je peux avoir plus de 300 messages par jour. Donc ça peut être soit des gens qui vraiment livrent des témoignages, ça peut être aussi des gens qui rebondissent simplement aux stories, et ça peut être des gens qui donnent des verbatim en fait. Donc on a à la fois en fait des personnes qui ont vécu ça et des personnes qui ont envie de débattre aussi sur ce qu'ils ont lu. Donc c'est intéressant parce qu'en fait on a vraiment un mélange, mais en même temps c'est dans la spontanéité puisque c'est au moment où je publie que je vais avoir effectivement des réponses. Donc on va avoir un vrai débat, c'est-à-dire que j'aime bien aussi mettre le pour et le contre, montrer un peu, nuancer le propos. C'est important quand même parce que sinon moi aussi je vais censurer et du coup je vais complètement devenir le compte ou la personne qui reproche, qui en tout cas va être visée pour ce qu'elle fait, et c'est pas vraiment ce dont j'ai envie. J'ai vraiment envie en fait de montrer tous les avis. Et de montrer aussi, d'apporter aussi un droit de réponse quand les agences le veulent sur le compte, et de poster leur droit de réponse puisque c'est un droit qui est fondamental. Donc voilà, j'ai vraiment envie que tout le monde y trouve son compte Instagram, du coup.
Ouais, c'est sûr que quand on tombe dessus, franchement, ça fait froid dans le dos. Il y a des trucs qui datent, on a l'impression d'être presque au 19e siècle ou au moins dans les années 50. C'est quand même super violent. Et puis, forcément, il y a une réponse, hein, Balance Ton Agency. Il y a une signature, hein, les verbatim. Ces verbatim violents, bien gras, bien déplacés, ils sont aussi contextualisés et on sait d'où ça sort. Hein, entendu chez telle agence, tu cites les agences. Parfois même, tu contextualises en expliquant qu'est-ce qui c'est, dans quel cadre, hein, directrice commerciale à une collaboratrice en réunion, etc. Est-ce que et tu ne cites jamais de prénom, par contre, hein, jamais de nom, jamais de prénom, exclusivement les agences. J'imagine que c'est fait exprès. À quoi ça tient, ça?
Alors oui, effectivement, mon anonymat déjà, effectivement aussi, me préserve de toute attaque en diffamation. C'est pour ça aussi que je suis derrière Julie Camille, que j'utilise un pseudonyme. Mais si je montre j'identifie les personnes directement, je sais que je peux être attaquée par ces agences-là aussi parce que ça peut être de la diffamation. Parce que c'est pas toujours, c'est difficile en fait de vérifier ces propos-là, ces témoignages-là. Alors moi, je prends toutes les précautions nécessaires, puisque aujourd'hui il y a quand même une forte audience. Je m'assure quand même que ces personnes sont passées par ces agences-là et qu'elles sont pas dans une simple volonté de nuire. Et on le voit quand il y a des propos qui se recoupent, enfin des témoignages quand même qui se ressemblent et qui visent en général. Les témoignages visent une ou deux personnes maximum. Il peut y avoir 50 témoignages qui visent la même personne. Donc là, on peut quand même pas se dire que c'est simplement une volonté de nuire gratuitement à ces gens-là. Donc je vais pas effectivement les nommer. Après, parfois, on peut arriver à, si on fait une petite enquête de son côté, à savoir de qui on parle. Mais effectivement, voilà, le but, c'est pas de montrer leur visage, d'inciter les gens à aller leur écrire des messages de haine, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut, en fait. Ce qu'on dénonce, on veut pas du tout, du coup, en être responsable aussi, ouais. D'un certain côté.
Ah ouais, ça, c'est intéressant. Est-ce que selon toi, tu penses que, la connerie, là, elle vient de l'individu ou elle vient de l'agence? Parce que le compte s'appelle Balance Ton Agency. Et parfois, t'as envie de dire, effectivement, parfois, c'est accablant, hein. Il y a une accumulation de témoignages, hein, qu'on peut retrouver notamment dans tes stories autour d'une même personne, hein, qui est pas nommée, mais c'est vrai qu'on comprend que c'est un seul et même individu. Est-ce que là, on n'aurait pas intérêt à être plus direct? Qu'est-ce que tu t'es déjà posé la question de te dire, après tout, lui, il mériterait?
Non, parce qu'on arrive quand même facilement à savoir de qui on parle. Donc, je suis pas sûre que le nommer change vraiment quelque chose. La connerie, elle vient principalement de la personne, effectivement, qui harcèle ou qui discrimine. Mais quand, en fait, derrière, les propos sont remontés à la direction et que l'agence ne fait rien pour que ça change, là, du coup, c'est l'agence qui va être coupable, en fait, puisque le fait de savoir et de ne pas agir, c'est manquer à la sécurité de ses employés. C'est grave, hein, parce que le burn-out, ça peut quand même conduire à des suicides, et donc on met quand même en jeu la vie des gens. Moi, j'ai pas envie de mettre en jeu la vie des gens qui harcèlent, mais j'ai envie quand même, à un moment donné, qu'on puisse se dire, bon, là, il y a quand même plus de 100 stories, 100 témoignages, 50 stories, enfin, donc il y a un problème, on l'a levé, on l'a mis en lumière, si derrière rien n'est fait, alors, ça me donne envie d'aller plus loin, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas les insulter, je sais que ces personnes-là qui sont visées lisent les stories, je le vois. Je sais qu'elles sont au courant et elles étaient au courant bien avant Balance Ton Agency, puisque elles ont pu avoir entre-temps des remontées de la direction. Après, le problème, c'est que ça vient souvent du management et donc ça vient quand même un peu du haut. Voilà. Donc, ces personnes-là qui sont visées sont souvent des personnes qui ont un peu le droit de vie ou de mort sur les salariés. Donc, c'est compliqué. Après, effectivement, de déboulonner un peu ces personnes-là qui sont haut placées dans les boîtes. Parce que parfois, ça peut être les fondateurs de boîtes. Hein. Donc, à part se remettre en question et avoir une vraie volonté de changement, ils peuvent pas s'auto-licencier. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu ces cas-là sur Balance Agency. On a eu le cas, effectivement, d'une petite agence dont je pense pas que je puisse citer le nom sur le podcast. Petite agence qui a été visée tout au début de Balance Agency. Le fondateur, c'était lui qui était mis en cause. Il s'est mis en retrait. Il n'est toujours pas revenu à l'agence. Mais par contre, l'agence devait être rachetée par une grosse boîte. Et par contre, l'achat a été annulé. Le rachat a été annulé, pardon. Car cette grosse boîte-là ne voulait pas du tout acheter l'agence et ses problèmes, puisque le problème, c'était le fondateur. Après, ils ont essayé justement de faire en sorte qu'ils puissent acheter la boîte sans le fondateur, mais le fondateur n'a pas voulu le faire. Donc en fait, on se dit, ils n'ont pas envie, en fait, d'aider les salariés, de les pousser vers quelque chose de positif, puisqu'ils ont envie, certains, de mourir, comme ils le disent, avec leur agence, quoi, de couler avec, un peu comme le Titanic, et celui qui reste dedans et qui veut couler avec le bateau.
Est-ce que l'objectif de Balanced Agency, c'est justement de faire exploser la situation d'Omerta, hein? Est-ce que c'est ça l'objectif de la démarche? C'est de dire, bah, en fait, si on est massif, on sera obligatoirement entendu et à partir de là, la loi du silence, elle va se briser. C'est ça l'objectif?
Bien sûr, bah, on le voit hein, pour concernant l'inceste, par exemple. On a vu que le fait que Camille Kouchner sorte un livre, donc La famille agrandie, sur l'inceste, a libéré la parole à ce sujet-là. Et qu'on a compris qu'il y avait une personne sur 30 qui avait été victime d'inceste. C'est énorme. Donc, à partir du moment où on met en lumière un problème et qu'on en parle et qu'on libère la parole dessus, en fait, on va avoir de plus en plus de gens qui vont se reconnaître dans ces histoires-là, dans ces témoignages. On met des mots sur le harcèlement et des définitions, donc ça veut dire qu'on peut mettre des mots aussi on va comprendre de quoi on est victime, en fait. On va pouvoir avoir vraiment les mots et les mots qui vont correspondre à notre mal-être, à notre douleur et à ce qu'on subit. Je pense qu'effectivement, le but du conte, c'est de libérer la parole et de montrer qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, sachant qu'on est des agences de communication et de communication d'image aussi et de crise, mais que pour les autres boîtes, mais que finalement, quand il s'agit nous-mêmes de communiquer sur nos propres problèmes, on n'arrive pas du tout à le faire. Moi, j'ai pas eu une communication de crise exemplaire pour le moment. J'ai pas eu de vraie remise en question, de vraie volonté de changer. Donc c'est un peu désolant parce qu'on a vraiment besoin de transparence. On a envie d'humilité aussi. Moi, j'ai une RH au téléphone tout à l'heure qui m'expliquait, c'est une RH externe, qui m'expliquait qu'en fait, elle avait donc la possibilité en fait de mener une enquête en interne, mais elle était externe à la boîte, ce qui lui permettait effectivement de pouvoir le faire tout en étant libre, sans être une subordonnée économique. Mais qu'au moment où elle devait divulguer les résultats, en fait, l'entreprise n'était pas d'accord parce que les résultats étaient trop mauvais. Donc, ça veut dire que même quand il y a des faits, même quand on a beaucoup de témoignages et que c'est fait par une société qui est compétente pour cela, les entreprises n'ont pas envie en fait de montrer qu'il y a un problème et d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment dommage parce que ça coûte non seulement à la santé des employés, mais ça coûte aussi financièrement à ces boîtes-là.
Ouais, moi j'ai une autre question là parce que c'est quelque chose aussi qu'on voit. Hein, parfois on voit des réponses, hein, on voit des réactions un peu offusquées de certains. J'ai une question concernant la vérification des sources. Comment ça marche? Est-ce que toi tu m'as dit concrètement il y a une action un peu croisée, on va dire. Hein, t'attends d'avoir plusieurs témoignages corroborant les faits, on va dire.
Corroborant, oui.
Est-ce que souvent c'est quelque chose qui était reproché en disant bah oui, mais on n'a aucune preuve de ce qui est raconté?
Au début, oui, puisqu'il fallait quand même que je me mette en place, que j'ai une certaine légitimité. Donc au début, oui. Mais par la suite, on a compris comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que je vais publier. Alors moi, je reçois donc des témoignages en amont. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai beaucoup de témoignages encore sur beaucoup d'autres agences. J'attends d'en avoir 4-5 qui corroborent en fait pour publier. Et je sais. En général, par exemple, que à partir de 4 ou 5 témoignages, je vais réussir derrière à en avoir 40, 50 ou 60. C'est ça qui est fou. Donc, pour vérifier si les personnes sont vraiment passées par là, j'ai donc mon compte LinkedIn Balanced Agency qui me permet de... Parce que moi, en fait, quand ces personnes viennent me parler, elles ne sont pas anonymes. C'est-à-dire que moi, j'ai leur compte Instagram perso. Donc, j'ai leur nom, j'ai leur prénom, j'ai leur vie. Enfin, j'ai plein d'informations qui me permettent d'aller vérifier plein de choses. Donc, je sais que si j'ai un minimum de témoignages, je vais en avoir en amont, je vais en avoir un maximum après la publication de ces témoignages.
Sur c'est vrai que j'avais 2 témoignages avant publication, mais j'avais déjà entendu parler, j'avais eu beaucoup d'échos sur la relation qu'avait avec qui était assez toxique pour les salariés. Donc, j'ai décidé vraiment de m'informer avant de les publier, mais j'ai quand même publié les 2 seuls témoignages que j'avais. Et finalement, j'en ai eu 108. 108, quand même, c'est énorme. Je crois que c'est le record de témoignages que j'ai pu avoir sur une agence. Et ce qui a été très difficile pour ce cas-là, c'est que j'ai pas pu être relayée par les médias, parce que pas vraiment en fait un impact aussi sur la presse qui fait que elle a été un petit peu certainement coincée aussi pour parler Donc, je me suis vraiment retrouvée. Là, j'ai vu les limites du compte Instagram, ce qui m'a vraiment désolée parce que j'avais pourtant énormément de témoignages et je sais que la personne qui est visée est une personne qui a été toxique déjà dans d'autres agences et dans d'autres marques de. Donc c'est vraiment dommage parce que là c'est connu de tous, c'est un peu comme le DSK de la pub quoi, tout le monde sait, mais il se passe rien. Donc là on se sent un peu démuni parce que on a beau avoir beaucoup de témoignages, mais ça suffit pas, c'est pas toujours suffisant.
Ouais. Sur ton compte, puis globalement, on parle. Tu parlais de MeToo tout à l'heure. Hein, on parle souvent de harcèlement de mecs. Hein, tu parlais aussi de harcèlement de mecs haut placés, hein, de patrons, etc. Mais sur ton compte, moi, il y a quelque chose que je trouve étonnant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de témoignages de propos violents entre femmes, en tout cas émanant de femmes plus ou moins haut placées au sein des agences. Mmh. Est-ce que globalement, le monde des agences, c'est un monde qui intrinsèquement est violent?
Alors déjà pour les femmes, je voudrais dire quand même que le harcèlement, qu'il soit sexuel ou moral, n'a pas de genre. Le harcèlement, en fait, il peut très bien être provoqué par une femme ou un homme. Après, j'ai quand même beaucoup plus de femmes qui sont victimes de harcèlement. Rien que sur le compte, j'ai 70% de femmes qui le suivent, 75% même, c'est énorme. Donc on voit bien que de toute façon, les femmes vont être victimes beaucoup plus de harcèlement ou de discrimination, par exemple liée à la maternité, évidemment, que les hommes. Après, il peut effectivement être provoqué par les deux genres. On le voit, par exemple, beaucoup plus dans les agences de relations presse, bon, qui sont du coup tenues par des femmes majoritairement. On voit qu'effectivement, il y a eu beaucoup de harcèlement moral. Et puis on a le cas aussi sur Balance la startup avec qui je suis en lien. On voit que les startups sont tenues par des hommes et des femmes, donc ça va être assez mitigé. Pour la publicité en elle-même, pour ce secteur-là en tout cas, effectivement, ça peut être un secteur qui va vraiment être plus propice au harcèlement en général, peut-être parce que on fait des heures, hein, on a des horaires qui sont vraiment particulières, c'est-à-dire qu'on finit très tard. Quand on a des charrettes, enfin charrette c'est un terme qui est quand même très propre aux agences de publicité. Donc on va passer beaucoup plus de temps en fait avec nos collègues qu'avec notre famille. Donc ça va devenir une famille. Moi j'ai souvent eu ce terme-là qui revenait souvent, c'est-à-dire qu'on me disait oui mais on est une grande famille. Enfin ils ont du mal à faire la différence entre collègues et famille. C'est pour ça qu'il va y avoir des dérives, celles qu'on connaît aujourd'hui. On peut être beaucoup plus soudé que dans n'importe quel autre secteur, mais en même temps, on va aussi du coup vivre des choses plus intenses et plus graves. Il va y avoir beaucoup de soirées. C'est un milieu où il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de drogue. Il y a qu'à voir comment est-ce qu'on traite justement, comment est-ce qu'on traite ces secteurs-là, comment est-ce qu'on le visualise à travers des séries comme Mad Men ou comme dans le film 99 francs, qui était un livre quand même avant. Mais on voit que on le décrit comme ça. C'est un milieu où les limites sont souvent dépassées. Donc voilà, je pense que effectivement, dans la publicité, on va avoir certainement plus de harcèlement qu'ailleurs. Mais il y en a aussi, évidemment, ailleurs.
Comment est-ce que toi, Balance ton agency, tu peux définir un comportement qui est non approprié? Parce que il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'évidence, hein, qui sont violentes, qui sont du harcèlement sexuel, etc. Puis parfois, il y a des comportements qui sont non approprié, hein, c'est ce qu'on découvre aussi, enfin ce que moi en tout cas à titre personnel, hein, j'ai aussi découvert en plongeant dans Balance Ton Agency parfois des choses qui semblent plus anodines mais qui peuvent être déplacées. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ça de façon claire?
Tout à fait. Je pense qu'on a la chance en fait d'être des communicants. Alors, on n'est pas toujours des bons communicants, mais on est des communicants, donc on peut peut-être poser la question en interne à ses salariés en leur demandant, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a blessé, qui t'a offensé depuis ton arrivée? J'ai par exemple moi des exemples assez concrets, mais qui sont un peu généralisés, c'est-à-dire que on peut avoir un manager qui appelle ses employés mes chatons, mes petits loulous, enfin, et ça va être sur un groupe de femmes. Et moi, j'ai plein de gens, de managers, qui me disaient, oui, bon, ça va, c'est gentil, c'est mignon, ça montre que, voilà, on est effectivement cette famille, et qu'on s'entend bien, et qu'il y a un vrai lien d'affection entre nous. Alors oui, Mais est-ce que ça les dérange, ces personnes-là? Donc, il m'a dit, je pense pas. Donc, je lui ai proposé d'aller demander aux gens qu'il appelait comme ça si ça les dérangeait. Et là, les personnes ont dit oui, mais on n'osait pas te le dire. Voilà. Ouais. Donc, finalement...
Attends, mais j'ai une expérience personnelle à témoigner. Voilà, j'ai un témoignage pour toi, Balance ton agency ce matin.
Super.
J'ai ici, à l'agence, alors Mathilde et Julie, avec qui je travaille depuis longtemps maintenant, hein, qui sont deux collaboratrices. Et il se trouve qu'un jour, comme ça, à l'occasion d'un apéro, je ne sais plus de quoi on parle, elles me disent, mais tu sais que chez Supernatif, tu es la seule personne à qui on fait la bise. Et je suis tombé de ma chaise parce que je n'étais pas au courant de cette situation. Je leur ai dit, mais comment c'est possible? Comment on a pu en arriver là? Vous arrêtez ça tout de suite. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire. J'étais aussi choqué qu'elle, je pense. Enfin bref, c'était étonnant. Et on a eu cette conversation. Mais pourquoi, du coup, vous me l'avez pas dit en fait, parce que, bref. Et effectivement, tu as raison. Parfois, et notamment quand c'est toi le patron, hein,
oui.
C'est pas évident de tout simplement le dire. Hein, c'est, et effectivement, oui. Là, je me suis reproché à moi-même de ne pas, à un moment donné, avoir eu la présence d'esprit de dire, mais dis donc, on se fait la bise, mais est-ce que t'es à l'aise avec ça ou pas?
Après, oui, voilà, c'est difficile, effectivement, pour un patron de tout voir, parce qu'il y a quand même beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids sur... il faut vraiment avoir l'œil partout, il faut... par contre, on peut aussi, parfois, voilà, poser des questions tout librement et demander, voilà, est-ce que vous êtes heureux dans l'agence? On peut les poser en anonyme, c'est-à-dire qu'on peut faire un questionnaire qui va être envoyé par mail, mais les réponses sont anonymes, ce qui permettra aux gens de librement s'exprimer sans avoir peur pour leur poste.
Ouais, là, elles auraient pu dire, non, je fais la bise au patron tous les matins, ça me saoule.
Oui, elles auraient pu le dire, mais c'est très intéressant, ouais, déjà de se poser la question et de savoir si elles ont envie que ça cesse ou pas, enfin si ça les embête. Bon, après là, on est en crise Covid, donc je pense que de toute façon la bise, elle est plus vraiment de mise, mais c'est intéressant quand même de savoir si ça les embête ou pas, parce que pour savoir si on a un comportement inapproprié, il faut simplement poser la question. Puis ça va être propre à chacun, c'est-à-dire que pour certaines personnes, par exemple dans ce cas-là précisément, elles vont être totalement OK pour faire la bise, et d'autres personnes vont trouver ça déplacé, puisque on est dans un contexte professionnel, et elles vont trouver que c'est pas du tout en accord avec le contexte. Donc ça va vraiment dépendre de chacun, de la sensibilité de chacun. On est tous et toutes différents en fait par rapport à ça.
Ben tu vois, le fait rien que de le découvrir un peu malheureusement, mais par contre ça a permis d'en parler et puis de décider ensemble que bon non en fait hein, c'était pas du tout. C'était déjà effectivement maintenant on est passé en crise Covid, donc la bise est loin derrière nous, affaire réglée. Est-ce que moi, j'ai une question qui me taraude à la lecture de certains témoignages hein, sur Balance Turn Agency. Je me demande pourquoi certaines personnes qui témoignent, elles sont plus susceptibles de te contacter, de contacter Balance Turn Agency, plutôt que d'engager des poursuites judiciaires. Parce qu'il y a des trucs clairement qui tombent dans le domaine du droit, hein, de la procédure pénale ou à minima prud'homale. Pourquoi peut-être d'ailleurs que l'un n'empêche pas l'autre, mais oui. Qu'est-ce qui ferait là aujourd'hui que sur un premier besoin, c'est celui d'en parler ouvertement avant d'engager une poursuite?
Alors, c'est pas forcément le premier besoin, parce que moi j'ai des personnes qui font les deux en même temps. C'est-à-dire qui ont déjà, qui vont aller au prud'homme ou au pénal et qui découvrent sur le compte qu'elles sont pas les seules, parce qu'en fait il y a une vraie omerta aussi en interne, c'est-à-dire que les gens parfois n'osent pas, en fait sont victimes de la même chose, mais pensent qu'ils sont les seules victimes de ce truc-là. Et quand ils découvrent sur le compte qu'en fait, ils font partie de plusieurs victimes, ils vont se rendre compte que c'est pas eux le problème en fait, parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui pensaient être le problème avant que ça sorte sur Balance Ton Agency. Moi ça a été mon cas dans l'agence dans laquelle j'ai fait un burn-out. À un moment donné j'ai cru que c'était moi qui n'avais pas les épaules, alors qu'en fait j'ai été victime de harcèlement et que ça m'a enlevé toute confiance en moi, à tel point que j'ai pas pu avoir la force de me dire que c'était de la faute de l'agence et pas de la mienne. Donc en fait j'ai beaucoup de personnes qui vont à la fois qui vont engager des procédures et qui vont à la fois vouloir vider leur sac sur le compte. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'actions au prud'homme, de procédures prud'homales? Dans un premier temps, parce qu'il y a quand même un souci d'argent. C'est très cher hein, déjà de contacter un avocat. Alors déjà, avant Balance Ton Agency, c'était déjà difficile de mettre des mots sur le harcèlement, sur ce dont... de savoir si on était vraiment victime de quelque chose de défini par la loi dans un cadre légal. Après, que le compte soit né, on a pu mettre des mots dessus. C'est-à-dire que les personnes ont pu se dire « Ah, ok, donc ça, c'est du harcèlement sexuel d'ambiance, par exemple. » Qu'est-ce que le harcèlement sexuel d'ambiance ? Ça peut être des photos de femmes dénudées ou d'hommes dénudés qui sont affichées dans l'agence. Ça, ça peut être du harcèlement sexuel d'ambiance. Moi, avant le compte, je n'en avais aucune idée. Et pourtant, j'en ai vu dans les agences. On va parler aussi donc du harcèlement moral, mais comment est-ce qu'on le définit ? Chacun peut avoir sa définition, mais il y a une vraie définition qui existe. Et ça, justement, avec le compte, on a pu aussi montrer et pointer du doigt qu'est-ce qu'était le harcèlement moral. Le harcèlement sexuel aussi. Le harcèlement sexuel, c'est pas une main aux fesses. Il est très vaste. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la définition du harcèlement sexuel. Donc, il faut déjà définir de quoi on est victime et si ça rentre dans, si ça sort dans justement de la loi, enfin, si on peut attaquer ces personnes-là en justice parce qu'on a été victime de quelque chose qui est préjudiciable.
Ouais, c'est ça. Donc, tu veux dire qu'il y a aussi une mission derrière Balance Ton Agency qui est celle de quasiment de vulgarisation juridique hein, autour de ces sujets hein, et d'expliquer qu'effectivement, il y a un cadre légal et voilà ce que précise le cadre légal. Hein.
Bien sûr. Et comme on n'avait pas connaissance de nos droits, puisque, nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi est quand même très complexe, puis c'est un peu du cas par cas. C'est-à-dire que, bon, on a des cas tellement particuliers qu'on va pas savoir si notre cas, il rentre dans certaines cases. Donc, avec l'accès au droit que fait Elise Fabing tous les lundis soirs sur le compte, on peut réussir à savoir à minima si on a été victime de quelque chose qui peut effectivement être pénalement répréhensible ou qui peut aller au prud'homme. Donc, à partir de là, quand on a mis les mots dessus, c'est à chacun de choisir si le fait de parler, c'est assez réparateur ou s'il y a besoin d'aller plus loin. Voilà, donc effectivement, moi j'ai beaucoup de personnes qui vont au pénal, ou j'ai des personnes aussi qui ont compris qu'elles étaient victimes de quelque chose de particulier et qui avaient envie d'aller plus loin. Donc, après il y a ce problème aussi de ce que je disais tout au début d'argent financier, l'aspect financier. Oui, un avocat ça coûte cher. Puis parfois simplement pour poser une question, on va devoir débourser de l'argent. Donc c'est très compliqué. Et on a en face de nous une agence qui a beaucoup plus de moyens que nous. Financier et qui va beaucoup plus nous faire peur parce qu'on va se dire on va pas avoir les mêmes moyens, donc on va pas avoir la même les mêmes avocats, donc on va forcément partir sur un pied d'inégalité, et c'est pour ça que les gens ont souvent peur d'aller en justice. Et puis la justice, c'est aussi une institution qui est assez patriarcale et qui est pas toujours au fait, qui est pas toujours, on va dire, qui est un peu loin de la réalité.
D'accord, tu veux dire que parfois il y a un décalage entre ce qu'on serait susceptible de trouver inacceptable et puis là où le cadre de la justice se pose, quoi.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui se passe en justice aujourd'hui ne se serait pas passé il y a 3 ans parce qu'il y a des mentalités qui ont évolué, qui ont changé. Voilà, mais ça met du temps. À se mettre en place. Donc parfois, dans la réalité, dans la vraie vie des gens, ça va plus vite que quand on est à un procès.
Ouais, justement, là, tu parles d'évolution, de mentalité, de choses qui changent. Hein. Là, dans les agences, ou en tout cas dans les gens qui sont cités, ou en tout cas pointés du doigt, on va dire, hein, sur le compte Balance Ton Agency, on voit des très grosses maisons hein, qui sont là depuis très longtemps, des institutions hein, de la com. Il y en a pour tous les goûts, comme tu as dit, aussi des petites agences. Hein. Mais le gros, c'est quand même des grosses maisons avec, on le sait, hein, parfois des gens qui sont là depuis longtemps, etc. Est-ce que tu as le sentiment que Balance Ton Agency, ça a un impact sur les agences, au cœur des agences, pour justement leur dire « Hey les gars, les mentalités, elles ont changé. » En fait, ce qui était acceptable ou en tout cas qui était toléré ou qui était inacceptable, mais en tout cas on disait rien dans les années 80, maintenant tout ça est révolu. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui bougent ? Est-ce que tu as eu des témoignages de discussions en interne aux agences qui se sont faites en réaction ou en tout cas qui ont été provoquées par Balance Ton Agency ?
Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai aussi des managers qui viennent me voir en me disant, bah, grâce à toi, je remets en question mon management. Donc, je me demande si ça c'est OK, si c'est pas OK. Je communique beaucoup plus avec mon équipe. Donc, ça c'est super. J'ai aussi effectivement des agences qui ont vu qu'effectivement, hein, il y avait un problème et qui perdurait et qui était beaucoup trop, qui était omniprésent, et qui ont décidé de faire des enquêtes internes. en anonyme pour permettre vraiment de libérer cette parole-là. J'ai aussi effectivement la question de certains postes qui est un peu remise en question, c'est-à-dire le travail de RH entre ce que nous on s'imagine la réalité du métier. Et la réalité du métier, il y a vraiment un gap, c'est-à-dire qu'on se dit bon, il va nous protéger à tout prix, mais il faut pas oublier qu'en fait, il dépend aussi de l'agence et qu'il est salarié et qu'il risque sa place en faisant remonter les infos. Enfin, il y a plein de remises en question qui sont très intéressantes sur le management, sur plusieurs postes et sur aussi le fait que l'inspection du travail, la médecine du travail ou les enquêtes internes qui sont diligentées par des avocats sont en fait payé par les entreprises et qu'à partir de là, il y a un conflit d'intérêts. Comment changer ça? Parce qu'en fait, ce qui nous permet de parler aujourd'hui sans passer par des comptes Instagram ne fonctionne pas. Donc, comment faire pour que tout ça fonctionne et pour qu'on retrouve en fait juste du bien-être? En fait, c'est pas moi, j'avais pas l'impression que c'était quelque chose de si compliqué à mettre en place. Après, quand on a des grosses agences, effectivement, c'est très difficile d'avoir une équipe 100% satisfaite, mais il y a quand même des moyens qu'on peut mettre en place, qui sont assez simples et rapides pour pouvoir s'assurer que tout le monde va bien.
Ouais, alors justement, ce serait toi, quoi le conseil que toi tu pourrais donner à un boss d'agence, hein, comme moi, tu vois. Alors nous, on est une petite agence, mais malgré tout, quel conseil tu pourrais me donner pour qu'il n'y ait pas ou plus de débordement chez nous, là, chez Supernatif?
Alors déjà, d'être à l'écoute, vraiment à l'écoute de ses salariés. C'est-à-dire que quand il y a un salarié qui remonte, qui déjà ose remonter un problème lié peut-être à un manager un peu toxique ou un salarié un petit peu peut-être un harceleur, il faut écouter cette personne-là, même si le manager en question est très compétent. C'est-à-dire que ça ne suffit pas en fait de faire du chiffre. Il faut aussi avoir des qualités humaines. Il faut être sûr qu'il y ait une vraie cohésion en interne et que tout le monde s'entende bien. Donc, il faut vraiment souvent prendre le pouls et écouter ce que les salariés ont à nous dire. Moi, j'avais le cas, effectivement, dans mon ancienne agence. On avait remonté plusieurs fois le problème. Ça n'avait pas été... on nous avait pas écoutés, puisque la personne était très compétente. Et du coup, la plupart des personnes sont parties. Donc, on a été à peu près 8 à partir sur 12 personnes. Et le problème, donc le manager toxique, est resté. Donc en plus, c'est très dévalorisant pour nous parce qu'on a l'impression de devoir se reconstruire et rechercher du travail alors qu'on n'a pas été problématique. On a simplement voulu remonter une information. Le président, fondateur, manager d'une boîte doit effectivement prendre le pouls, mettre en place justement des outils qui vont permettre de savoir assez souvent, régulièrement, comment les gens se sentent en interne, si tout va bien, parce que c'est difficile d'aller parler, de taper à la porte de son boss. C'est compliqué comme action. On a toujours peur de perdre notre boulot, surtout dans une période comme celle-ci. Donc moi, je propose vraiment des outils anonymes pour qu'il y ait une vraie possibilité d'expression.
Il y en a, par exemple, t'en as à portée de main, là, ou à portée de clic, peut-être, maintenant que tout le monde est en télétravail, parce que sinon, j'aurais bien proposé la boîte aux lettres, comme la boîte à idées, mais...
Ouais.
Des trucs, mais...
Ah bah, ça peut être... vous n'êtes pas une très grande boîte, la boîte à idées, c'est toujours... ça peut toujours marcher et fonctionner. Après, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses qui existent à l'heure actuelle. C'est ça qui est vraiment très embêtant. C'est-à-dire qu'en fait, si, après, il y a des... Je crois qu'il y a Cahier Social, c'est une boîte qui fait justement des enquêtes internes en anonyme, qui permet de prendre cette température-là. Donc, il y a des boîtes qui existent et qui s'occupent de ça. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il manque certainement une association, je pense, qui serait justement contre les violences au travail et qui aiderait les salariés victimes de violences à s'en sortir et qui pourrait aussi aider peut-être les employeurs à trouver des solutions pour éviter que cela arrive dans leur entreprise. Ouais, parce que parfois, on s'en rend pas compte.
Qui ferait office de tiers de confiance où on pourrait avoir une sorte de médiation simple avant que le problème arrive, quoi.
C'est ça. Parce que parfois, un manager ou un fondateur ou un entrepreneur peut ne pas se rendre compte de ce qui se passe réellement. Si personne ne lui parle, il ne peut pas savoir ce qui se passe.
Ouais, tout à fait.
Voilà, on ne va pas non plus jeter la pierre à chaque fois à l'employeur. Si effectivement, aucun problème n'est remonté à la surface, c'est difficile de le déceler. Donc, il faut aussi, voilà, savoir peut-être prendre la température avec une boîte externe, prendre le pouls, peut-être assez régulièrement, je dirais tous les trois mois. Et puis il y a aussi les évaluations qui permettent d'avoir un entretien avec les salariés pour savoir comment ils sentent, pour savoir comment il a envie d'évoluer. Moi, je dirais, c'est vraiment être à l'écoute, en fait. Et puis bah, voilà, peut-être anonymement, je pense que ça permettrait aussi de libérer la parole.
Julie, il y a pas mal moi j'ai lu pas mal d'articles hein, en préparation de ce rendez-vous et il y a un mot une expression hein, qui revient fréquemment, hein, qui est celle de cancel culture, hein, et qui serait du coup un reproche quasiment hein, qu'on pourrait faire à Balance Ton Agency, hein, celui de pousser à la cancel culture, à l'annulation collective, rayer de la carte une agence, rayer de la carte un manager qui aurait déconné, etc. Toi, tu en penses quoi de ça? Est-ce que Balance Ton Agency, c'est l'émanation d'un phénomène dans l'air du temps qui est celui d'une culture de l'annulation collective?
Alors la cancel culture, effectivement, moi je m'y reconnais pas vraiment là-dedans. J'ai pas l'impression en fait de faire de la cancel culture dans le sens où on offre quand même un droit de réponse aux personnes qui sont visées. Moi, j'ai plus l'impression que la cancel culture, elle émane en fait des entreprises, puisque les problèmes sont connus par l'entreprise et par l'employeur, mais c'est eux qui cancellent en fait justement cette parole et qui préfèrent voir partir leurs collaborateurs plutôt que de régler le problème. Donc, il y a plus de solution en fait. La solution, oui, ça va être effectivement de mettre en lumière ce qui va pas dans ces boîtes-là et de permettre de libérer la parole. La cancel culture, ok, on met en avant, on dénonce, on critique, mais on propose aussi quand même aux personnes qui sont visées de répondre. On propose aux entreprises de répondre. En fait, si les personnes en sont amenées à me parler, c'est qu'elles ont essayé de trouver des solutions dans la vie réelle, mais que finalement il y a aucune main tendue, il y a eu aucune main tendue et aucune écoute, et c'est bien dommage parce que il y a quand même des personnes qui sont censées être présentes dans les entreprises pour écouter et pour faire remonter en fait ces problématiques là. Donc j'ai pas l'impression en tout cas de faire de la cancel culture, mais j'ai plus l'impression en fait de faire une remise en question assez générale sur ce qui se passe, de montrer que effectivement il y a des systèmes qui marchent pas. Le système judiciaire, il fonctionne, il est long, il est très très long. On n'a pas forcément envie d'attendre 2 ans avant d'avoir notre premier procès. On a envie de tourner la page vite, donc de trouver des solutions à l'amiable avec son entreprise. Donc, je pense qu'en fait la cancel culture, elle démarre pour moi en fait dans les entreprises.
Ok. Et Balance Ton Agency, ça a été le déclencheur, hein, quand même. Alors, ça s'inscrit dans un mouvement collectif, encore une fois, dans le prolongement sans doute de MeToo. Et puis, ça a été aussi le déclencheur d'un paquet d'autres projets qui commencent par Balance Ton, hein, d'ailleurs. Hein. Tu parlais de Balance Ta Startup. Mais il y en a plein d'autres. Balance Ton Tatoueur aussi, où j'ai vu des choses effarantes. Ouais. Il y a un paquet de Balance Ton Cabinet d'avocat, etc. Il y a un paquet de trucs qui sortent comme ça. Tu t'attendais à ça? Tu t'attendais à ce que ce qui allait partir d'un constat perso, prendre une forme d'expression comme ça sur Instagram, allait ensuite ouvrir les portes d'un paquet de domaines différents, hein, bien loin de peut-être de celui que tu connais, celui de la publicité, mais dans d'autres milieux?
Pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que, enfin, j'ai compris finalement avec l'émergence de tous ces comptes-là, qu'en fait, c'était peut-être culturel. C'était pas forcément propre à un secteur, c'est plus culturel. Peut-être que c'est français, c'est latin ou c'est méditerranéen, je sais pas, mais on a en fait quelque chose qui est assez systémique qu'on va retrouver partout. Et qui est pas forcément présent dans tous les pays, c'est-à-dire que moi j'ai pas mal de personnes qui sont dans des agences de pub par exemple dans d'autres pays et qui me disent mais mon Dieu, en France vous êtes au Moyen-Âge, c'est quand même fou. Non mais donc c'est là où je me dis bon bah c'est peut-être culturel. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir?
Excuse-moi, je ricanais parce que on a un garçon qui se reconnaîtra en écoutant qui s'appelle Nicolas, qui nous a rejoint et qui est américain. Voilà, il nous a rejoint ici chez Supernatif et effectivement, il y a des choses qui lui paraissent très étonnantes avec ses yeux d'américain arrivant dans une agence française. Donc je vois ce que tu veux dire.
Oui, non, mais aux États-Unis, ça se passe pas du tout comme ça. Loin de là. Les procès, déjà, il y a beaucoup moins d'attentes, c'est plus rapide. Alors, parfois, il faut avoir du temps pour mener une enquête à bien, c'est normal. Mais je trouve que quand même, on a quand même plusieurs cas qui sont graves et qui sont connues de tous, mais qui ne changent pas. Donc, je ne sais pas si c'est France. Enfin, en tout cas, c'est pas que français, évidemment, ça, c'est quand même pas mal de pays, mais j'ai des regards extérieurs de personnes qui sont, par exemple, au Canada, qui me disent, mais mon Dieu, déjà, nous, quand on arrive dans une boîte, on a une formation liée au harcèlement d'emblée.
Ouais.
Moi, je n'ai jamais vu ça ici.
Ça ferait partie des réponses, ça ferait partie des trucs qui sont intéressants d'intégrer aujourd'hui dans un process d'intégration d'un nouveau collaborateur ou d'une collaboratrice.
Bien sûr. Ouais. Il faut faire de la prévention. En fait, même moi qui ai un petit peu plus de 30 ans, le harcèlement n'existe pas depuis 2 ans, mais j'ai jamais eu là-dessus des cours, que ce soit au lycée, parce qu'il y a quand même, ça commence quand même assez tôt, hein, on va pas se mentir, mais j'ai jamais eu aussi de cours là-dessus dans les écoles de pub que j'ai faites, qui sont assez réputées. On nous a pas dit qu'en fait on allait être un petit peu envoyé parfois pour certains ou certaines à l'abattoir, parce que c'est quand même très difficile comme milieu. On n'est pas préparé à ça, donc on a aucun cours là-dessus, on n'est pas prévenu, on ne sait pas ce qu'est le harcèlement, on ne sait pas ce qu'est la discrimination, alors qu'on a quand même fait des études, on est quand même censé être un petit peu éduqué. Mais en fait, c'est très loin d'être le cas. D'ailleurs, il y a un collage féminicide qui me parle beaucoup là-dessus. Il y avait écrit « Éduquez vos, protégez vos filles », et c'était barré. Et puis en dessous, il y avait écrit « Éduquez vos fils ». Donc ça vient. C'est vrai que ça vient de l'éducation, bon, qu'on a effectivement par nos parents. Mais après, l'école est censée faire son job. Et en fait, à l'école, il y a rien là-dessus. Donc on est complètement démunis, on connaît pas nos droits, donc forcément, on va avoir une position de faiblesse par rapport à ces agences-là, ce qui est bien dommage, parce qu'on devrait être sur un pied d'égalité avec elles. Donc c'est pour ça qu'on en arrive là. Et j'ai l'impression, effectivement, qu'en France, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet quand on voit qu'effectivement, Sandra Müller a été une des premières personnes, donc c'est elle qui a lancé le mouvement de Balance ton porc. On voit qu'au procès, elle était loin d'être gagnante. Elle a ensuite été attaquée en diffamation. Après, elle a gagné son procès, mais sur le fond, on lui a quand même reproché d'avoir parlé et d'avoir dit d'avoir dénoncé ça sur Twitter. Et en fait, il y a beaucoup de travail à faire aussi sur pas seulement sur le secteur de la publicité ou sur le monde du travail, mais aussi sur nos façons de fonctionner, nous, personnellement, ou dans le harcèlement de rue aussi, qui est quand même très présent en France. Moi, je sais qu'on a hébergé une amie qui vient du Portugal, qui, elle, ne connaît pas le harcèlement de rue au Portugal. Donc, il y a du boulot sur tous les fronts. Mmh. Et c'est présent partout. Partout.
Et justement, dans Balance ton agency, il est aussi question pas mal en ce moment de balance ton client un peu, hein, j'ai l'impression. Il y a évidemment, ouais. Il y a du harcèlement au cœur des agences, et puis parfois c'est plus complexe que ça, parce qu'une agence, elle bosse pour des clients, parfois elle a même des collaborateurs qui sont intégrés chez le client, des collaborateurs ou des collaboratrices, et là on bascule dans une autre forme, je dirais, de harcèlement, c'est celui du client vers l'agence ou vers l'employé de l'agence. C'est plus, encore plus complexe, ça, non?
Ah oui, parce que en fait, là, on parle de gros clients, en plus les deux derniers qui ont été cités sur le compte. Effectivement, en fait, c'est des clients qui ramènent tellement d'argent que c'est difficile de dire non aux clients. Donc, on a un client tyran qui est un client roi aussi, de par l'inaction des agences, de par le fait qu'elles le savent, mais qu'elles ont peur aussi de perdre le client, en remontant ces informations-là directement à ce client. Donc, on préfère avoir des salariés mal en point que perdre un client, parce qu'on sait que ça va coûter très cher à la boîte, en tout cas dans les deux derniers exemples qui ont été cités sur Balance Ton Agency. Donc ça, c'est ça, enfin, pour l'exemple de d'ailleurs, effectivement, il y a le client qui est carrément dans l'agence, ce qui arrive jamais. Enfin, rarement. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres agences. Mais là, on est quand même sur un problème de fond. On va avoir... Normalement, on a les commerciaux qui font justement un petit peu le lien entre les créatifs et le client. Là, on a le client directement. Donc, c'est très difficile. C'est-à-dire que on va avoir des réflexions sur notre travail qui vont pas être qui vont manquer de tact, certainement, parce que pour l'exemple de on a quand même quelqu'un qui a l'air d'être assez virulent et assez dur avec ses collaborateurs. Alors là, en plus, j'ai effectivement entendu dire qu'il n'avait plus le droit d'avoir un contact direct avec tous les salariés de donc il a un contact qu'avec les patrons ou les personnes assez haut placées pour éviter justement des débordements comme il y a pu y avoir ces dernières semaines. Donc on en arrive carrément à enfermer un peu le lion en cage. voilà, moi j'avais l'exemple aussi chez dans une agence, bon, je vais le dire, mais chez avec une personne qui a depuis été licenciée. Alors je sais pas si elle a été licenciée, en tout cas elle est partie. Au lieu de lui dire attends, range un petit peu tes yeux ou fais attention à tes propos, on demandait aux femmes de s'habiller différemment pour ne pas le réveiller. Enfin, c'est quand même le monde à l'envers.
Ouais, on vit dans un drôle de monde, un monde violent. Hein. C'est clair que en t'écoutant et puis en lisant ton compte Balance Ton Agency, on a quand même une fenêtre sur le monde des agences qui est pas génial. Hein. C'est à nous de faire bouger les lignes là parce que c'est pas beau et on n'a pas envie de voir ça. Ouais.
On n'a pas envie et puis on sait qu'on est quand même sur une vraie volonté de changement. À un moment donné, ils vont plus trop avoir le choix, car quand on va toucher leur image et leur réputation, bon, là, je pense qu'elles vont décider de bouger un petit peu. Bon, ça va mettre du temps. C'est un petit peu frustrant parfois parce que sur Instagram, ça va vite. Dans la vraie vie, ça va moins vite.
Ouais.
Bon, parfois, c'est tant mieux parce qu'il faut du temps aussi pour le temps de la réflexion, de trouver des solutions. C'est important de prendre le temps pour ça. Mais c'est frustrant parfois parce que, bon, bah, on sait que le problème existe, mais pourtant, il perdure, il est toujours là. Et puis, on voit que la personne est pas forcément mise à pied ou licenciée. Quoi, ok, mais bon, après, effectivement, il faut aussi prendre le temps de réfléchir pour mettre des actions en place, et c'est tant mieux parfois.
Julie Camille, t'as balancé un paquet de noms d'agences là,
ouais.
Aujourd'hui.
Ça va peut-être me coûter cher, mais bon.
Juste en off, hein, elle m'a dit, est-ce que j'ai le droit ? J'ai dit, écoute, là, c'est Balance Ton Agency hein, qui s'exprime, moi je te donne le micro, tu dis ce que tu veux.
Oui, c'est moi qui parle.
C'est toi qui parle. Est-ce qu'il y a des bons élèves quand même ? Est-ce qu'il y a des agences où franchement, on a déjà travaillé sur ces sujets, on a déjà eu une prise de conscience et on a de l'avance sur les autres. Est-ce qu'il y en a ?
Bien sûr. Heureusement qu'il y en a. Moi, j'en ai par exemple qui ont aucunement été cités. Alors, c'est difficile de faire régner, d'avoir en tout cas beaucoup de bienveillance dans une agence quand l'agence elle-même est grande. Mais par exemple, je sais que chez ça se passe majoritairement bien. Voilà. Alors que c'est une grande boîte. Je sais que, par exemple, chez j'ai pas eu de témoignages pour le moment. Alors que j'ai un paquet d'agences là qui attendent encore d'être, enfin, qui attendent pas, qui veulent pas du tout se retrouver sur le coup, mais qui vont peut-être avoir leur petit quart d'heure de gloire. Parce que, bah, effectivement, malgré l'existence du compte, il y a pas grand chose qui bouge. Mais oui, il y a des agences où ça se passe bien. Il y a des agences aussi qui ont décidé d'aller dans le bon sens depuis qu'elles se sont retrouvées sur le compte.
Ouais, qui ont agi derrière, hein, qui ont dit non mais ça n'arrivera plus quoi.
Qui ont mis à pied aussi des personnes qui avaient été visées.
Ouais.
Ça c'est super. Enfin, ça montre qu'il y a une volonté aussi de s'améliorer, de changer, de bouger et d'écouter aussi ses salariés. Donc c'est ce qu'on veut. On veut pas du tout en fait inverser le rapport de force. C'est-à-dire que effectivement le rapport de force aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas, il y a encore quelques semaines, il était plutôt du côté de l'employeur. Et c'est dommage parce qu'on a quand même envie d'avoir les mêmes droits, d'être dans un rapport de confiance, d'égalité, de bienveillance. Mais quand le rapport de force se retrouve plus d'un côté que d'un autre, on peut pas avoir ça. On peut pas retrouver justement cette bonne ambiance, ce bien-être. C'est difficile. En fait, ce que je veux, c'est pas simplement faire peur aux boîtes en disant bon bah voilà maintenant on est là, on est 70 000 donc votre réputation elle va vite être ternie si vous continuez de mal agir. Non, le but c'est vraiment de se dire bon, ayons un rapport de confiance d'égal à égal pour qu'enfin on puisse travailler dans de bonnes conditions. On demande pas la lune. En fait, c'est ça qui me rend folle, c'est de me dire pourquoi on n'y arrive pas alors qu'on demande quelque chose d'assez simple en soi.
Julie, un grand merci. Un grand merci pour cet échange. C'était passionnant. Je pense qu'il aurait pu durer encore plus longtemps.
ça peut durer des heures.
Ça peut durer des heures. Si, pour ceux qui souhaitent découvrir Balance Tonal Agency, alors ça se passe sur Instagram. Il y a effectivement, tu l'as dit, une fois par semaine, je crois que c'est en live Insta, hein, si je dis pas de bêtises, une juriste qui vient expliquer et parler de tous ces sujets sur une avocate peut-être, même si tu peux préciser.
Une avocate, tout à fait. Une avocate, effectivement. Elise Fabing.
C'est quel jour de la semaine ?
Tous les lundis.
Tous les lundis, donc ça c'est sur Balance Tonal Agency. Et puis, si quelqu'un souhaite échanger avec toi de ces sujets, alors pas forcément pour balancer, mais peut-être pour juste échanger de tout ça, c'est où le meilleur moyen pour te contacter ?
Alors, je suis assez réactive sur les réseaux sociaux, sur Instagram, puisque du coup, je travaillais encore dans la pub il y a quelques semaines, mais c'est plus le cas. Donc, j'ai mon temps libre pour m'occuper justement de tout ce qui va pas en agence, pour ensuite peut-être transformer tout ça en un projet plus concret qui serait en dehors des réseaux sociaux. Mais à l'heure actuelle, on peut me contacter sur Instagram. On va dire que mon temps de réaction est pas très long. Donc voilà, on peut...
Et toi aujourd'hui, puisque t'en parles, hein, c'est quelles implications perso ou pro ça a eu sur toi? Parce que une fois qu'on s'est lancé dans ce combat, comme tu l'as fait, alors toujours sous couvert de l'anonymat, mais malgré tout, on est dans un petit monde. J'imagine que c'est difficile à conserver cet anonymat. Est-ce que toi, on va te revoir un jour bosser dans la pub, à ton avis?
J'en rêverais. Moi, j'y retournerai quand il sera assaini, justement. J'aime toujours ce milieu, j'aime toujours ce travail. Je suis vraiment passionnée par la publicité. J'y ai trouvé mon compte et en même temps, ce qui m'embêtait, c'était de le faire dans des conditions un peu terribles et terrifiantes. Mais oui, j'aimerais bien, effectivement. J'ai pensé à une reconversion un petit peu comme tous ceux qui sont dégoûtés par ce milieu parce qu'ils ont été victimes de harcèlement ou de discrimination. Mais en fait, je trouve que une reconversion, c'est beau finalement aussi, hein, de pouvoir se dire qu'on peut faire autre chose, qu'on peut avoir d'autres rôles et se sentir utile autrement. Mais au fond de moi, j'ai quand même envie d'y retourner et de faire quelque chose de bien, enfin de travailler dans des conditions saines et de toujours prendre autant de plaisir à le faire. Après, effectivement, j'ai perdu mon travail. Parce que pour plusieurs raisons, mais effectivement il y a eu aussi le fait que j'ai été reconnue en tant que Balance Tonal Agency dans cette boîte là et que c'était compliqué pour eux de gérer ça. C'est normal, hein, après je leur en veux pas, mais aujourd'hui je passe 11 heures par jour sur le compte Instagram. C'est énorme, c'est difficile d'avoir deux emplois en même temps. C'était pas le cas quand je travaillais dans mon ancienne agence, la dernière que j'ai faite. Je travaillais pas autant sur Balance Tonal Agency, sinon c'est vrai que ça aurait été malvenu, mais voilà. Je leur en aurais pas voulu du tout. Mais effectivement, je sais que c'est du temps. Il faut que je le consacre peut-être aujourd'hui à 100% pour le compte. Et quand on commencera à trouver des solutions concrètes, là, je pourrais imaginer retourner dans les agences. Mais je vois bien qu'il y a un conflit d'intérêt aussi pour moi à travailler dans ce secteur-là et en même temps à dénoncer ce qui s'y passe.
Oui, bien sûr. Ouais, évidemment.
Voilà.
Et sur ton compte Insta, là, en ce moment, j'ai pu voir dans ta bio, il y a un lien vers un PayPal pour soutenir Balance Tonal Agency. Est-ce que tu peux dire deux mots là-dessus et à quoi ça sert ?
Oui, alors justement, comme j'ai plus vraiment de travail, mais pour moi c'est un travail à temps plein que de s'occuper de ce compte-là. C'est pas ce que j'imaginais au début, mais ça me prend beaucoup d'énergie, ça me prend beaucoup de temps, et ça effectivement empiète sur ma vie personnelle. Parce que on est quand même sur des choses qui sont dures à lire, parce que moi je fais un tri, c'est-à-dire que ce qui apparaît sur le compte, c'est pas tout ce que je lis. Je lis beaucoup plus que ce qui va être en story. Moi je fais un tri, mais ça me prend un temps fou. Et je rêverais effectivement d'en faire mon métier et de pouvoir, en tout cas, me sentir utile en aidant les autres aujourd'hui. Donc, je voulais voir si c'était possible d'allier les deux et de pouvoir en vivre, hein, parce que derrière, moi, après, ça me nourrit pas. mais je sais que c'est très tabou en France, donc j'arrive pas à communiquer là-dessus. Je sais que ça peut être mal vu, donc je l'ai mis en lien sans en dire plus.
Bah regarde, c'est pour ça que je t'en parle de façon directe. Non mais si je comprends bien, si j'essaye de traduire ce que tu dis, c'est tu te poses la question de comment cette énergie collective, ton énergie individuelle au service de ce combat, eh ben peut être utile et potentiellement peut se transformer en une mission qui prend la forme d'un métier, hein, d'être juridique, de formation. J'imagine plein de choses peuvent se faire autour de ces sujets.
C'est ça. Ah oui, mais c'est le but. C'est... Moi, après, je sais que ça va être difficile, effectivement, de continuer de faire ça parce que le compte PayPal que j'ai mis en lien ne me suffit pas du tout à vivre, ne me permet pas de vivre. Donc, peut-être de créer, d'en faire un vrai projet qui aura des choses concrètes à proposer, puisque là, c'est plutôt des témoignages, donc c'est vrai qu'on a du mal à se dire que c'est beaucoup de temps, que c'est de l'énergie, donc on voit pas, il y a pas de choses concrètes derrière. Mais je veux effectivement créer un projet qui découle de Balance on Agency et qui pourra me permettre de me lever le matin, de me donner envie de le faire, mais en même temps aussi de pouvoir en vivre, hein, parce que
bien sûr, ouais.
On vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc voilà, je veux pas forcément le même salaire que j'avais en agence. Je veux simplement pouvoir le faire tout en ayant la possibilité, voilà, de manger.
Ben écoute, nous on suivra, on va continuer à suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe du côté de ton compte et puis voir où tout ça nous mène. En attendant, les aventures Balance on Agency, ça continue depuis 2020 maintenant, et malheureusement, j'ai envie de dire, excuse-moi, malheureusement ça continue, hein, malheureusement on apprend, ouais, tous les jours, donc on espère que tout ça évolue plutôt dans le bon sens. Encore un énorme merci pour cette discussion. Je suis ravi qu'on l'ait eu. Ça s'est organisé facilement, mais c'était pas, oui, une évidence, donc je te remercie, non, beaucoup, et
merci
puis,
à toi,
et puis au plaisir, et eh bien de se croiser peut-être plus tard de visu pour de vrai, non,
avec plaisir,
quand les choses se seront tassées, ça me ferait très plaisir.
Avec plaisir aussi, sachant que effectivement mon nom et mon identité commencent à tourner pas mal en ce moment, ces derniers temps, donc je pense qu'on pourra bientôt se rencontrer et puis échanger effectivement de visu, parce que c'est une expérience humaine, hein, Balance on Agency, mais c'est vrai qu'il manque ce côté échange, partage in real life, quoi. Donc c'est bien beau d'être sur les réseaux sociaux, mais ça me ferait du bien aussi de pouvoir partager tout ça en vrai, de voir des sourires, de voir aussi de l'espoir, hein, dans les yeux des salariés. Et ça, effectivement, ça pourra se faire que si je sors de l'anonymat, et c'est certainement pour bientôt.
Ben, quand tu veux, avec grand plaisir. Merci encore.
Merci, Thibaut.
À toi. Et puis, chers amis qui nous écoutez, eh bien, n'hésitez pas à aller suivre Balance ton Agency, à lui mettre un petit message, lui dire on a écouté cet épisode, continue à lui poser des questions. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Donc, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à partager à un ami, à nous mettre un petit commentaire. Enfin bref, vous connaissez tout ça. Je vous souhaite à tous une très, très belle journée et je vous donne rendez-vous dès demain.